Bonjour. Vous êtes sur Graphite 94.9, la radio des curieux. Et là, ce matin, c'est les curieux de musique avec Glissando. Voilà, je vous laisse un petit peu ma bonne musique de début. Aujourd'hui, on va commencer avec un compositeur qui s'appelle Edward Elgar, compositeur et chef d'orchestre britannique. Dans la classe aisée de l'Angleterre victorienne et édouardienne, il a été gêné parce qu'il avait des origines humbles, même lorsque son talent était reconnu. Il s'est marié à la fille d'un officier supérieur de l'armée britannique. Et bien sa femme sera une source d'inspiration pour sa musique. Et d'ailleurs, grâce à elle, il est introduit dans les milieux aisés, ce qui assurera plus tard sa future notoriété. Mais il luttera beaucoup pour connaître le succès jusqu'à ses 40 ans. Il a composé entre autres 5 marches pour orchestre entre 1901 et 1930. En 1902, il a alors 45 ans, à la demande d'Edouard VII, Elgar fait de cette première marche un hymne pour le couronnement du nouveau roi du Royaume-Uni sur des paroles d'Arthur Christopher Benson. Ce chant patriotique est nommé « Land of Hope and Glory », un chant pour l'espoir et la gloire. Et il est parfois considéré justement comme l'hymne national de l'Angleterre. La marche numéro 1 a été reprise même par Serge Gainsbourg dans la chanson « Marie-Lou sur la neige ». Je ne sais pas si vous la connaissez, mais quand vous allez entendre après l'œuvre d'Edouard Elgar, vous allez vous dire « Ah oui, ça y est, je me rappelle ». Alors pourquoi je vous parle de cette œuvre d'Edouard Elgar qui s'appelle « Pomp and Circumstance » parce qu'elle a été utilisée dans le film « Orange mécanique » dont on a parlé la semaine dernière.
Thank you.
Eh bien, nous quittons nos amis anglais, et notamment Edward Elgar, qui vous a donc proposé Pomp and Circumstance, hein, donc cet hymne national de l'Angleterre, voilà, très, très enjoué, que tout le monde a certainement dans l'oreille ou a déjà entendu. Alors, on retourne en France, avec cette fois Paul Dukas. Paul Dukas, il est né en 1865 à Paris et il y est mort aussi en 1935. C'était un musicien perfectionniste, exigeant. Il a abandonné nombre de ses projets musicaux et n'a publié qu'une poignée de ses œuvres. Il est connu pour son poème symphonique, alors lequel, vous avez deviné ? Eh bien oui, L'apprenti sorcier, dont la popularité éclipsa ses autres œuvres, parmi lesquelles un opéra, Ariane et Barbe Bleue, une symphonie, une sonate pour piano, un ballet qui s'appelle La Pairie, là il est plus connu. Il fut aussi critique musical, il devint même professeur de composition au Conservatoire de Paris et à l'École normale de musique vers la fin de sa vie. Alors L'apprenti sorcier, eh bien il est inspiré par la ballade homonyme Der Zauberlehrling de Goethe, écrite juste un siècle plus tôt. Et sa création a eu lieu à Paris le 18 mai de la même année lors d'un concert de la Société nationale de musique sous la direction du compositeur. En 1937, la partition de l'apprenti sorcier est à l'origine du projet de long métrage d'animation de Disney Fantasia, qui est sorti en 1940 et qui était dans le rôle-titre, je vous demande, vous le savez, bien sûr, Mickey. Alors, quelle en était l'histoire ? Je vous le rappelle, mais je suis sûre que tout le monde connaît l'apprenti sorcier. Alors, c'est donc un apprenti sorcier qui tente, c'est Mickey l'apprenti sorcier, hein. L'apprenti sorcier tente d'animer un balai pour qu'il effectue son travail. Parce que, il a vu son maître le faire, alors voilà. Et qu'est-ce que c'est le travail du balai ? C'est remplir une bassine d'eau avec des seaux. Mais comme il ne contrôle pas son enchantement, les bassines arrivent, l'eau arrive, monte. Alors il veut détruire à la hache les balais qui transportent en fait les seaux d'eau. Et plus il en détruit, plus il en arrive. C'est une horreur, c'est une horreur. Si bien que la maison finit par être inondée. Heureusement, le maître arrive. Pas content, hein. Là, on voit que Mickey, il a été vraiment grondé. Alors le maître arrive enfin et répare les dégâts provoqués par l'apprenti. Tout redevient normal, l'eau disparaît. Ouf, on est sauvé. Eh bien, rejoignons tout de même l'apprenti sorcier, donc de Paul Dukas, par l'Orchestre Philharmonique d'Oslo. Thank you. On l'a échappé belle, hein. Heureusement qu'il est arrivé, parce que sinon on était tous sous l'eau. Voilà, c'était l'apprenti sorcier de Paul Dukas. Alors, cet apprenti sorcier, cette œuvre, est écrite pour un orchestre symphonique. Un orchestre symphonique, c'est un gros orchestre, hein. Il y a plein de cordes, de vent. Donc, dans les vents, il y a les bois, il y a les cuivres, il y a plein de percus. Vous avez entendu tout ça, c'est ce qui fait cette masse orchestrale qui est formidable et Ah là là, aller au concert, aller voir en live un concert, et ça n'a rien à voir avec, avec un CD que vous écoutez. Hein. Même si vous écoutez cette émission-là, donc Glissando, ben, c'est bien, mais c'est encore mieux d'aller au concert. Je vous y invite. Donc, l'orchestre symphonique, qui était utilisé pour l'apprenti sorcier, avait comme particularité d'avoir pas mal de clarinettes, clarinettes basses. Clarinette basse, c'est une clarinette qui joue encore plus grave que la clarinette. Trois bassons. Alors les bassons, vous savez, c'est des espèces de, comment j'ai envie de dire, un peu des gros tuyaux en bois que vous voyez comme ça de loin. Voilà, donc qui joue encore plus grave. Et un contrebasson, alors là, c'est vraiment très 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 grave. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que ces instruments, le hautbois aussi d'ailleurs, utilise des hanches. Alors, les hanches, ce n'est pas la hanche du corps, ça s'écrit A-N-C-H-E, l'hanche. Hein. Et c'est en quoi? Eh bien, je vais vous dire, c'est du roseau. Voilà. Et ce sont en fait des roseaux qu'on trouve en Provence. Ce sont des plantations de roseaux, ça s'appelle le roseau du Var, surnommé aussi la canne de Provence. C'est la matière première qui permet de fabriquer les hanches des musiciens à travers le monde. Et c'est un groupe américain, Dadario Woodwinds, qui se trouve en fait à Hyères, dans le Var, et qui fait maintenant aussi une production française biologique. Voilà, donc les musiciens, ils seront contents parce qu'ils auront aussi des hanches biologiques dans leur bouche, j'ai envie de dire, parce que quand ils jouent du hautbois, de la clarinette ou sous ces instruments dont je vous ai parlé, eh bien l'hanche est vraiment, elle est pincée en fait entre leurs lèvres. Voilà. Eh bien on va repartir, on va aller à la rencontre de Ludwig van Beethoven. Vous connaissez certainement. Compositeur, pianiste, chef d'orchestre allemand. Il est né à Bonn en 1770, donc vous voyez, on est retourné un petit peu en arrière. Il est mort à Vienne, à 56 ans, en 1827. C'est vraiment le dernier grand représentant du classicisme viennois, après des compositeurs comme Gluck, Haydn, Mozart. Beethoven a préparé l'évolution vers le romantisme en musique. Une de ses œuvres nous intéresse particulièrement aujourd'hui. C'est sa sonate pour piano, numéro 8, en do mineur, opus 13, dite « pathétique ». Elle a été composée en 1798 et 91, publiée en 1791, sous le titre français de « Grande sonate pathétique », avec une dédicace au prince Lichnowsky, mécène du compositeur, depuis qu'il était arrivé à Vienne en 1792. Cette sonate appartient à la période où Beethoven commençait à affirmer son style et à se détacher de l'influence de Haydn et Mozart. Contemporaine des six premiers quatuors à cordes, donc quatuors à cordes, vous vous rappelez, deux violons, un alto, un violoncelle, du septuor, ben là ils sont plus nombreux, du premier concerto pour piano et de la première symphonie. C'est une œuvre brillante, novatrice. Elle peut être considérée comme le premier chef-d'œuvre pianistique de Beethoven. La célèbre mélodie de l'Adagio a été largement reprise dans la publicité, mais aussi au cinéma. Voilà, c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Et on retrouve justement cette sonate pathétique dans le film, vous voyez lequel ? Jurassic Park 2. Alors, on l'appelle aussi « Le monde perdu ». Vous l'avez peut-être vu, c'est un film américain de science-fiction réalisé par le grand Steven Spielberg. C'est sorti en 1997 et c'est la suite de Jurassic Park 1, j'ai envie de dire. Il est deuxième volet de la saga éponyme et il est l'adaptation du roman de Michael Crichton, publié en 1995. L'intrigue se déroule 4 ans après le premier film. Les dinosaures, les horribles dinosaures qui bouffent tout le monde, là, ils ont survécu sur Isla Sorna, la deuxième île que l'entreprise InGen de John Hammond utilisait pour la ramener à la vie et les cloner. Quelle drôle d'idée quand même, parce qu'ils ont fait beaucoup de dégâts quand même. Je vous propose donc la sonate pathétique, son adagio cantabile de Beethoven pour Jurassic 2. Thank you. Voilà. C'était Ludwig van Beethoven, donc l'Adagio cantabile de sa sonate pathétique. Eh bien, je vous propose de rester en Allemagne. Qui c'est qui est né après Beethoven? Eh bien, il y a un certain Richard Wagner. Il est né en 1813 à Leipzig, donc en Allemagne. Peu de temps après sa naissance, pas de chance, son père meurt. Sa mère va épouser par la suite l'acteur Ludwig Geyer, qui va lui transmettre en fait son goût pour le théâtre. Wagner s'intéresse tout d'abord à la dramaturgie. Il ne découvre la musique qu'à l'âge de 15 ans. En 1835, il s'est inscrit à l'université de Leipzig pour suivre des études musicales et subit entre autres les influences justement de Beethoven et de Liszt. Entre exil, inquiétude pécuniaire, engagement actif au sein des mouvements révolutionnaires qui secouent la Saxe, le compositeur a une vie très mouvementée. Mais il arrivera quand même, en 1871, à installer sa nouvelle salle d'opéra dans la ville de Bayreuth. Le Palais des Festivals ouvre en 1876 avec une représentation de son œuvre « L'or du Rhin ». La première du festival réunit les plus grands compositeurs de l'époque, Grieg, Tchaïkovski, Saint-Saëns et bien d'autres. Et à notre époque, le festival de Bayreuth reste encore l'un des plus prestigieux. Le pauvre Richard Wagner, il est mort à Venise d'une crise cardiaque. Il laisse derrière lui plus d'une centaine d'œuvres, parmi lesquelles aussi les célèbres Tristan et Iseut, ou encore Siegfried Idyll. Il est vraiment considéré comme l'un des compositeurs majeurs du romantisme tardif au XIXe siècle. La complexité et le caractère novateur de ses compositions ont inspiré aussi bien ses contemporains que ses successeurs. Alors, le 7e art a immortalisé le compositeur allemand dans l'un des films les plus connus de Francis Ford Coppola. Alors, vous me dites, quel est ce film ? Apocalypse Now. Apocalypse Now, sorti en 1979, c'est un film sur la guerre du Vietnam. Il utilise comme musique les Rolling Stones, mais aussi des musiques de Wagner. Notamment pour une scène, très très belle scène, de l'attaque en hélicoptère des soldats américains qui vont survoler justement pour aller attaquer le Vietnam. Et ça, c'est sur fond de la chevauchée des Valkyries. Et ce film et aussi cette musique, cette chevauchée a marqué des millions de spectateurs. Alors, on va justement écouter cette fameuse chevauchée des Valkyries avec le Philharmonic Orchestra d'Oslo. Eh bien voilà, on va quitter Bayreuth et je vous propose d'aller à Vienne. On va retrouver Schubert. Schubert, il est né à Vienne en 1797. Il est mort dans la même ville. Il est mort pas très vieux, le pauvre, en 1828. Compositeur autrichien, auteur d'une œuvre extrêmement riche en volume et en variété, il est notamment considéré comme le fondateur du Lied romantique allemand. Il a été initié par son père au violon et au piano par son frère Ignace. Il fait son apprentissage aussi musical, il a fait du chant, de l'alto. Vous vous rappelez, l'alto, c'est un violon un peu plus grand, un peu plus grave. Il a fait aussi de l'orgue, du contrepoint, de l'harmonie, ce dont on a besoin pour devenir compositeur. Il a travaillé avec l'organiste de la paroisse de Lichtenthal. Il est devenu chanteur à la chapelle royale de Vienne. Il a reçu, les leçons d'Antonio Salieri. Vous vous rappelez de Salieri? On en a parlé déjà, il y a quelques semaines. On pensait que c'était, qu'il était contre Mozart, etc. En fin de compte, c'est pas vrai du tout. Voilà. Donc, lui, il a eu aussi des leçons d'Antonio Salieri au Stadtkonvikt. C'est l'académie de musique là-bas où il était engagé après, même comme violoniste dans l'orchestre. Et ça lui a permis de connaître des œuvres, justement, de Mozart, de Haydn, de Beethoven. Et on tourne en rond ce matin. Durant quelques années, il a exercé les fonctions de maître auxiliaire dans l'école que dirigeait son père. Mais comme ils ont plutôt pris conscience de son don exceptionnel pour la musique. Donc du coup, le papa, c'est toujours pareil, il voulait absolument qu'il fasse quelque chose, mais le fils a quand même décidé de se consacrer entièrement à la composition. C'était sa passion. Dans les années 1820 à Vienne, malheureusement, Schubert n'est célèbre qu'auprès d'une élite de connaisseurs. Ses leaders et ses pièces de piano ne sont exécutées que dans le cadre de soirées musicales privées, appelées les Schubertiades. Les célèbres Schubertiades, c'est de la musique de chambre. Pourquoi de chambre? Parce que c'était dans des salons comme ça, avec pas énormément de monde, mais ça devait être vraiment fort sympathique. Et puis on était près des musiciens, on devait pouvoir discuter plus facilement avec eux que dans des grandes salles. Et son unique concert public avait eu lieu à Vienne, quelques mois avant sa mort. Pas de chance. Une grande partie de l'œuvre de Schubert ne fut découverte, éditée et créée qu'à titre posthume. Alors, une de ses œuvres la plus connue est le deuxième mouvement de son trio numéro 2, utilisé à de nombreuses reprises dans le film Barry Lyndon. Alors ce film, oui, c'est vrai qu'il est sorti en 1975, donc ça fait un peu loin. Mais c'est un film historique anglo-américain qui fut écrit et réalisé par Stanley Kubrick. Il est adapté des mémoires de Barry Lyndon, qui était un roman de William Makepeace Thackeray. J'espère que je dis bien. Le film évoque le destin d'un jeune intrigant irlandais sans le sou, dans la fastueuse société anglaise du XVIIIe siècle. Ça parle de son ascension sociale, pleine d'audace, de perversité, après qu'il ait épousé une lady qui lui apportera une fortune considérable, lui donnera un fils, mais jusqu'à sa déchéance finale. Je vous propose donc Schubert, trio pour violon, violoncelle et piano, l'andante comme moto. C'est un mouvement pas très rapide, vous allez voir, je suis sûre que vous le connaissez. Et c'était pour le film Barry Lyndon. Thank you. Ah, on n'arrive pas à parler après ce magnifique trio de Schubert. Voilà, et c'était justement pour le film Barry Lyndon. On continue avec un autre compositeur, Pietro Mascagni. Il a laissé en fait son nom à la postérité avec un seul chef-d'œuvre, l'opéra Cavaliera Rusticana de 1890. Il est le fruit de cette période où les jeunes compositeurs cherchaient à se démarquer de Verdi ou de Wagner. Tiens, tiens, on en a parlé tout à l'heure. Posant ainsi les bases du vérisme. Le vérisme, voilà, qui tend à représenter la vie dans ce qu'elle a de plus réel et de plus vrai. Alors, ce compositeur, cette œuvre de Pietro Mascagni, a été utilisée dans un film de Francis Ford Coppola, sorti le 27 mars 1991. Alors vous dites quoi? Quel est ce film? Allez, allez, on aurait dû faire un concours, tiens, aujourd'hui. Eh bien, en fait, c'est Le Parrain 3, avec Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia. L'histoire, alors je vous résume, il atteint la soixantaine, donc Michael Corleone désire à la fois renouer avec les siens et se réhabiliter aux yeux de la société, surtout de l'Église d'ailleurs. Alors, il arrivera presque à ses fins, mais sa vie passée et ses anciens ennemis le rattraperont plus vite qu'il ne pense. Voilà. Eh bien, nous allons écouter. Voilà, je vais vous faire écouter tout de suite, là, voilà, l'Intermezzo Sinfonico de Cavaliera Rusticana de Mascagni. Alors, comment vous avez trouvé ce Cavaliera Rusticana de Mascagni? C'est joli, non? Eh bien, pour vous quitter tout en douceur, ben oui, parce que le temps passe, là, je vois que ça va être bientôt l'heure de nous quitter. On se retrouvera, j'espère, la semaine prochaine. Donc, vous vous rappelez que vous êtes sur Glissando, l'émission de musique classique, mais pas que. Et c'est sur Graphite 94.9 FM. Alors, c'est Mozart, voilà, notre cher Mozart. Ben oui, mais pourquoi je vous fais terminer l'émission avec Mozart? Vous allez dire, encore lui? Oh non, 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 non. Eh bien, parce qu'une de ses œuvres se trouve dans un très, très beau film, Out of Africa. Il est paru en mars 1986. C'est pareil, hein, ça, il y a longtemps. C'est un film de Sidney Pollack. Son histoire, délaissée par son mari, Karen Blixen, une jeune Danoise, finira par tomber dans les bras de Denis Finch Hatton, un aventurier et pilote britannique au charme indiscutable, rencontré au Kenya, où elle s'est installée. Au cœur de l'Afrique, Karen tente de trouver sa place entre sa plantation de caféiers, son mari volage et son histoire d'amour avec un homme épris de liberté. Le film a réuni à l'écran en 1985 deux acteurs formidables, dont une femme que j'adore, qui est Meryl Streep, et Robert Redford. Ce film a été nominé pour 11 Oscars. Il aura aussi 7 récompenses, incluant meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur son, meilleur scénario. Oh là là, direction artistique, musique du film, un palmarès en or auquel s'ajoutent 3 Golden Globes. Alors, écoutez, je vais vous abandonner, pas lâchement, hein, non. Je vais vous abandonner au cœur de l'Afrique avec l'adagio du concerto pour clarinette de Mozart et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.